Et je vous invite à suivre à présent l'émission Dialogue entre Congolais avec Alain Ronk à la présentation.
Bonsoir. Au centre du débat de ce soir, près de 4 ans après la promulgation de la Constitution, certains points de cette loi fondamentale font l'objet de débats parmi les députés, notamment la question de découpage et décentralisation. Quel bilan dresser de l'application de la Constitution près de 4 ans après? Une révision de cette Constitution est-elle envisageable actuellement et quels sont les aspects qui peuvent être concernés? Trois invités participent à ce dialogue entre Congolais. Oba Minaku, juriste, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Il est avec nous dans ce studio. Bonsoir, honorable.
Bonsoir.
Moïse Nyarugabo, juriste et sénateur RCD. Bonsoir, honorable.
Bonsoir, monsieur.
Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Il va nous rejoindre dans quelques instants dans ce studio. Bienvenue à tous dans cette émission.
Dialogue entre Congolais. Vous voulez participer à l'émission? Réagissez par SMS au 081 05 15 778 ou appelez-nous au 081 890 66 78.
Avant d'entrer dans le vif du sujet de ce soir, nous allons faire un clin d'œil à l'actualité. Vous le savez, la Cour suprême de justice a rendu hier lundi son arrêt dans l'affaire José Makila. Selon les avocats de ce dernier, la Cour suprême a jugé irrécevable la requête introduite par José Makila, ce qui veut dire que José Makila n'est plus gouverneur de l'Équateur conformément à la motion de défiance votée contre lui par l'Assemblée provinciale de l'Équateur en janvier dernier. Et dans un délai de 15 jours, la commission électorale indépendante devra organiser l'élection d'un nouveau gouverneur à l'Équateur. En attendant d'être notifié, José Makila constate, et je cite, que la justice est celle qu'elle est ici en RDC. L'ex-gouverneur dit qu'il attend s'assumer le moment venu devant le peuple de l'Équateur. Moïse Nyarugabo, vous êtes juriste et sénateur RCD. Comment analysez-vous cette décision de la Cour suprême de justice?
Monsieur le journaliste, je vous remercie, mais sans avoir le dispositif du jugement ou de l'arrêt de la Cour suprême devant mes yeux, je ne saurais pas vous dire grand-chose. Mais tout ce que je sais, c'est que l'affaire qui était devant la Cour suprême, c'est plutôt l'appel du procureur général et du procureur général de la République par rapport à l'arrêt qui avait été rendu par la Cour d'appel de Mbandaka. Et c'est cette affaire qui a été plaidée. Donc je ne comprends pas comment aujourd'hui la Cour se prononce plutôt sur la requête de Makila. La requête que Makila avait faite en inconstitutionnalité avait déjà été vidée. Alors, je ne sais donc pas vous dire grand-chose. Mais si ce sont les appels qui ont été déclarés irrécevables, ça veut dire que c'est l'arrêt de la Cour d'appel qui est confirmé, et donc Makila est le gouverneur. Mais si c'est une autre requête que je ne connais pas, qui a été rejetée, là aussi, je me demande comment la Cour suprême pouvait aller au-delà de déclarer la requête recevable ou irrécevable, aller jusqu'à juger le fond. Parce que déterminer la date à laquelle les élections doivent être organisées, c'est déjà aller jusqu'au fond, mais pas se limiter à déclarer recevable ou non.
Donc, si je vous comprends, pour vous, la Cour suprême s'est prononcée sur autre chose.
Non, j'ai mis des réserves parce que je n'ai pas le dispositif de l'arrêt de la Cour de la suprême. Je me réserve de faire un autre commentaire, mais les informations que j'ai sont celles que je viens de vous livrer.
Oba Minaku, vous êtes juriste, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale. Votre réaction à chaud?
Oui, à chaud, je dirais que ce dossier judiciaire a connu plusieurs soubresauts, sinon plusieurs vicissitudes. Que ce soit M. Makila, que ce soit le ministère public, que ce soit tous ceux qui étaient concernés par les dossiers, tous attendaient finalement le fameux arrêt de la Cour suprême de justice qui vient d'être rendu. Et je crois que dans un état de droit, à un certain moment, lorsqu'il n'y a plus d'autres voies de recours, on s'incline devant la décision judiciaire, même si, pour certains, cette vérité peut ne pas être similaire à la vérité ontologique. La vérité judiciaire nous tient dans un état de droit. Tel est le cas pour Makila, et nous n'avons qu'à suivre la suite de la procédure pour le remplacer.
Pourquoi avoir attendu 9 mois
9 mois pour donner cette décision. Pourquoi avoir attendu 9 mois? Je vous dirais que les exigences judiciaires font que, de temps en temps, ça prend plusieurs mois, parce qu'il y a le droit de la défense, il faut attendre toutes les parties, il faut vérifier, il faut mettre sur table toutes les preuves, les confronter, etc. Ça pouvait ne pas prendre 9 mois s'il y avait dans les chefs des uns et des autres une certaine culture de la gestion de l'État. C'est-à-dire, à un certain moment, lorsque il faut se retirer, on le fait en toute courtoisie, on se retire même avant d'attendre les décisions judiciaires. Et je crois qu'étant donné que nous sommes dans une démocratie encore naissante, avec une expérience naissante, c'est juste une coutume du monde démocratique ne sont pas nécessairement intériorisés par certains dirigeants. Voilà le pourquoi de ce long temps, 9 mois, mais c'est une exigence judiciaire et il faut respecter les principes sacro-saints de la justice, notamment le droit de la défense, le respect des délais, etc.
Mais il y a d'autres élus, hein, même de l'Équateur, même de la majorité, qui ont dénoncé la politisation de ce dossier.
La politisation du dossier? Non, il faut d'abord retenir que le dossier a eu un pan judiciaire assez important. Et la justice a suivi son cours jusqu'au bout. Si dans l'entretemps, puisque Makila fait partie d'un parti politique, de l'opposition, en face de lui, il y a d'autres partis politiques, notamment de la majorité, si dans l'entretemps, il y a eu un débat entre opérateurs politiques, cela est tout à fait normal dans un système démocratique. Je ne crois pas que ce soit contraire aux règles de la démocratie. C'est tout à fait normal.
Honorable Moïse Nyarugabo, à un moment, la Cour a rendu une autre décision. À ce moment-là, c'était que la requête était irrécevable et non fondée. Et actuellement, c'est une autre décision. Mais quelle image de la justice congolaise, finalement?
Sincèrement, deux choses. La première, la requête de Makila avait déjà été vidée il y a longtemps. Elle a été déclarée irrécevable. L'affaire qui était pendante devant la Cour suprême, c'est l'appel du ministère public contre l'arrêt de la Cour d'appel de Mbandaka. C'est l'affaire qui a été plaidée par les avocats. Donc, je ne sais pas sur quoi la Cour s'est prononcée. Est-ce qu'il y avait une autre requête dont on n'a pas eu l'information? Je me réserve d'aller plus loin parce que je n'ai pas cette information. Et s'il y a une autre requête, donc, la Cour s'est prononcée sur cette requête-là. Mais s'il n'y avait pas une autre requête, est-ce qu'elle s'est prononcée deux fois sur la même requête, c'est que je ne crois pas. Mais si c'est sur l'affaire qui a été plaidée devant elle, c'est l'appel du ministère public, il y avait deux appels, l'appel du procureur général de Mbandaka et l'appel du procureur général de la République. Ce sont les deux appels qui étaient pendants devant la Cour suprême. Et c'est ça ce qui a été plaidé. Je me souviens que même les avocats de Makila ont plaidé pour l'irrécevabilité de ces deux appels. Donc, ne connaissant pas sur quoi la Cour a statué, je ne veux pas entrer dans le fond, je réserve mes commentaires quand j'aurai eu d'amples informations.
Voilà, donc c'est un dossier à suivre. Nous allons revenir à présent à notre sujet de ce soir. Près de 4 ans après la promulgation de la Constitution, le temps est à l'instauration des mécanismes permettant son application. Au sein de l'opinion, des avis sont partagés quant au respect de ces principes fondamentaux. Une catégorie estime que les institutions en place font un effort pour les appliquer, tandis qu'une autre pense que les hauts responsables de l'État sont réfractaires à certains changements relatifs à l'application de la loi fondamentale qui risque, selon elle, de briser un système qui les favorise. Marie-Chantal Lumba, vous êtes avec nous dans ce studio. Donnez-nous un peu plus de détails.
Si le pays est doté des institutions politiques issues des élections, cependant, à ce jour, plusieurs défis sont à relever. D'abord, la question sur le redécoupage des provinces. Selon la Constitution, la RDC devrait passer de 11 provinces à 26, 3 ans après la mise en place des institutions. Certains estiment qu'à ce jour, cette volonté est vouée à l'échec par manque, notamment, d'infrastructures. C'est des débats de salon en discussion élections, par exemple au Katanga. Autre question, celle de la décentralisation. Le cas de la retenue à la source des 40% des recettes de la province n'est toujours pas appliqué. Les élections locales et municipales renvoyées en 2010. Concernant les droits des citoyens, le secteur socio-économique reste dominé par des revendications pour le respect des droits fondamentaux, se nourrir, accéder aux soins de qualité, à l'éducation. Un dialogue social ouvert par le gouvernement avec les syndicats est en cours et la grève reste d'actualité. Entre-temps, le législatif poursuit sa production des lois et des dits. À ce sujet, il reste à savoir si l'application intégrale de la Constitution relève d'un problème d'homme ou de système. Est-ce que ce changement, le changement de certains articles de la Constitution peut-il améliorer le vécu quotidien du Congolais? Voilà autant de questions que l'opinion se pose.
Merci Marie-Chantal Lumba. Il y a beaucoup d'auditeurs qui nous ont écrit à ce sujet. Serge Chabat de Gouine en province orientale, le bilan de l'application de la Constitution 4 ans après est catastrophique dans la mesure où le côté socio-économique reste encore à déplorer. Moïse Diabanza de Matadi au Bas-Congo, le gouvernement central rend difficile la tâche des provinces en refusant d'appliquer la disposition constitutionnelle relative à la retenue à la source des 40%. Aubin Minaku, honorable, quel bilan dressez-vous de l'application de la Constitution près de 4 ans après sa promulgation?
Bon, vous savez, la Constitution, c'est en un mot la charte fondamentale servant de règle du jeu, à la base. Et donc, c'est un texte important pour un fonctionnement harmonieux dans un état de droit, dans un état moderne. Mais retenons aussi que nous sommes dans un état, tout le monde le dit, en refondation. Un état en refondation, sur le plan social, sur le plan économique, mais aussi sur le plan institutionnel, sur le plan normatif. Et donc, pour moi, il est tout à fait explicable que nous puissions nous interroger par rapport aux contraintes, à certaines difficultés quant au respect, à l'application correcte, maximale de la Constitution. Parce que, après tout, nous sommes un jeune État. Voilà ce que j'aimerais dire d'emblée, en guise de liminaire, mais j'en profite pour ajouter ce qui suit. Nous avons une Constitution qui a été mise en place dans un contexte que nous connaissons. Des négociations laborieuses que nous connaissons. Mais après tout, c'est une Constitution, c'est la loi fondamentale. Et aujourd'hui, s'il y a des difficultés de mise en œuvre, si le 40-60% ne sont pas respectés, s'il y a des interrogations par rapport au pouvoir, notamment par exemple du ministère de la Justice, sur les officiers du ministère public, comme sous d'autres yeux, s'il y a beaucoup d'interrogations pareilles, mais il y a une voie de sortie, excusez-moi.
Je vous en prie, honorable. Oui. Je vous laisse terminer votre idée, mais permettez à nos auditeurs de mieux vous comprendre. Donc, à ces stades, si je vous comprends également, vous voulez dire que parce qu'on est un État en refondation sur tous les plans, cela justifie que la Constitution ne soit pas totalement appliquée.
Je veux dire ceci, la Constitution n'est jamais, même aux États-Unis d'Amérique, même en France, dans les vieilles démocraties, la Constitution n'est jamais totalement appliquée. Il y a toujours des lacunes. Mais il nous appartient de prendre en charge les difficultés, les contraintes qui font que nous avons ci et là des interrogations par rapport à notre propre Constitution. C'est pourquoi je félicite Radio Capi pour avoir ouvert ce débat.
Honorable Moïse Nyarugabo, nous sommes un État en refondation sur tous les plans.
Monsieur le journaliste, j'aurais voulu que vous laissiez Aubin Minaku, honorable Aubin Minaku, sauter. J'étais intéressé par sa conclusion. En fait, je comprends la difficulté de l'honorable. Il reconnaît en fait que nous sommes un état en refondation et qu'il est explicable qu'on n'applique pas totalement la Constitution. Il parle même des contraintes d'application maximale. Là, il n'y a plus de débat. En fait, il a conclu que la Constitution n'est pas appliquée, ou alors elle est très peu appliquée. Et moi, je constate que dans sur tous les chapitres. On ne fait pas d'effort d'appliquer cette constitution. Je ne pense pas que nous ayons la même compréhension de ce que c'est la constitution. Une loi fondamentale, une loi des lois. Et lorsqu'il dit qu'il y a beaucoup de contraintes et qu'il y a une voie de sortie, je comprends, s'il veut anticiper, donc il faut réviser la constitution. Même avant de la réviser, il faut d'abord l'appliquer. En fait, on va continuer à dire que nous sommes un État jeune, une démocratie jeune, nous allons mourir bébé. Ça fait 50 ans bientôt que nous sommes indépendants. Alors, 50 ans d'indépendance, si nous sommes bébés, alors il ne faut plus espérer croître. Donc, je voulais dire, monsieur le journaliste, les 40%, on n'a jamais essayé. On n'a même pas dit, ok, on réduit les 40%, on n'applique pas, on ne fait pas une application maximale, mais peut-être 20%, 30% de retenue à la source. Non, ni 40%, ni retenue à la source. C'est toujours la rétrocession de soit 5%, soit 10%, soit 11%, jamais 15%. Je ne sais pas s'il y a une province qui a déjà reçu 15% à la fin d'un mois. Il y a même des provinces qui ne reçoivent presque rien ou qui reçoivent après 2-3 mois. C'est quand le gouvernement central le veut ou le peut, si je dois être, je dois suivre le collègue. Donc je veux dire que nous, l'application, elle n'est pas appliquée. Bon, le collègue va nous donner peut-être ces contraintes-là, mais l'application, on constate simplement que l'application n'est pas faite.
Voilà, honorable, en attendant que l'honorable Aubin Minaku puisse vous donner un peu plus de lumière, nous accueillons dans ce studio le professeur Paul Gaspard Ngondankoy, enseignant de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Bonsoir, professeur.
Bonsoir.
Vous venez de suivre les deux parlementaires. Il y a cet auditeur John Kayembe, Kalala de Kananga au Kasai occidental. Il dit, je constate avec frayeur que la classe politique actuelle a beaucoup de difficultés pour interpréter sa propre constitution.
Bon, cher ami, je crois que ce qu'il faut rappeler tout d'abord, c'est qu'une constitution, c'est une loi, c'est même une loi fondamentale d'un État. Et pour ce qui concerne nos États, la première des choses à dire et à rappeler, c'est qu'une loi est faite pour être appliquée. Je crois que ça, c'est une donnée fondamentale que l'on rappelle aux étudiants en première année. La constitution, elle n'est pas appliquée ou elle est appliquée, elle est mal interprétée ou mais je crois que la question, finalement, se ramène au bilan, comme vous l'avez dit, de l'application de cette constitution. C'est vrai, il y a des dispositions qui ont déjà été mises en œuvre, notamment les dispositions concernant les élections et l'installation de nouvelles institutions. On ne va pas contester qu'aujourd'hui, on n'a pas d'institution au niveau de la présidence, au niveau du Parlement, au niveau du gouvernement, au niveau des provinces. Mais il reste encore beaucoup de choses à faire parce qu'on n'a pas encore complètement installé toutes les institutions au niveau local, etc. Deuxièmement, il y a un certain nombre de dispositions qui sont en train d'être mises en œuvre, notamment l'article 175 sur la fameuse retenue à la source, qui n'est pas complètement appliquée, qui n'est pas appliquée dans l'esprit de la Constitution, mais qui est tout de même en voie d'être appliquée. Mais il y a beaucoup d'autres dispositions qui restent inappliquées jusque-là. Il y a l'article 2 de la Constitution qui instaure le régionalisme constitutionnel et qui prévoit l'installation de 25 provinces. Et relativement à l'article 226 qui donne un délai de 3 ans aux autorités pour mettre en place ces institutions, on est aujourd'hui à 10 mois, on n'a pas encore commencé l'installation des autres provinces. Donc il y a là certaines dispositions qui ne sont pas appliquées. Bon.
Alors, quelles pourraient être les causes? Pourquoi elles ne sont pas appliquées?
Ah non, je crois que les parlementaires sont mieux placés que moi. Moi, je ne peux les aider que dans les aspects techniques. Je pense qu'il y a certainement des causes d'ordre politique, mais sur le plan technique, ça suppose quand même qu'on respecte la procédure qui est prévue pour la révision de la Constitution ou pour son application.
L'honorable Aubin Minaku a évoqué le contexte dans lequel la Constitution a été ficelée.
Oui. Oui, oui, ce contexte, il a été marqué par une forte présence de la communauté internationale ici, qui a eu une haute main sous nos institutions. Il y a les contextes de l'insécurité à l'époque, il y a les contextes où il fallait prendre des décisions de façon consensuelle entre différentes forces politiques. Je n'ai pas l'impression que le contexte a sensiblement changé. Il reste encore pour l'instant relativement le même. Est-ce que ça justifie pour autant une révision de la Constitution? Ça, ce sont des questions qu'il faut se poser et il appartient à l'homme politique qui connaît l'état de l'opinion, qui la jauge, de pouvoir prendre une décision politique.
Alors, pour mieux vous comprendre, professeur, hein, vous dites qu'il y avait une forte présence de la communauté internationale à l'époque. Est-ce que vous voulez dire, par exemple, que les Congolais ne se sont pas suffisamment appropriés cette constitution ou ils n'ont pas tenu compte de certaines réalités propres au Congo?
Non, on ne peut pas être catégorique, hein, sur tout le plan. Il faut relativiser tous les jugements. La présence de la communauté internationale a été à la fois bénéfique et parfois avec quelques pesanteurs. Il faut reconnaître qu'elle nous a aidés, elle a aidé la classe politique à s'entendre, je sais que sur un minimum, sur les institutions, sur la constitution, et ainsi de suite. Mais il faut également dire qu'elle a exercé une telle influence que certaines dispositions qui sont dans la constitution sont visiblement d'inspiration étrangère. Donc, dans toute chose, il y a du bon, il y a du pour, il ne faut pas déifier, il ne faut pas non plus diaboliser.
Honorable Aubin Minako, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de lumière à l'honorable Moïse Nyarugabo pour qui rien n'est appliqué?
Bon, je crois que la lumière a été apportée par le professeur. Il y a des dispositions constitutionnelles qui exigeaient notamment que nous puissions, au niveau de l'Assemblée, adopter des lois organiques, organiser l'État sur le plan institutionnel. Ça a été fait pour certaines dispositions, ça n'a pas encore été fait pour d'autres. Il y a notamment l'article 2 de la Constitution, en ce qui concerne le nombre de provinces, combiné avec l'article 226, si je m'abuse, qui n'est pas encore mis en œuvre. Et au mois de mars, nous serons, au mois de mars 2010, plus ou moins, je crois, nous pourrions être à terme. Voilà là des problèmes qui se posent devant l'homme politique congolais, devant le peuple congolais. Et c'est pourquoi je dis ceci. C'est pourquoi j'ai félicité d'abord Radio Capi, mais j'ajoute, puisque le collègue sénateur Nyarugabo a anticipé, il a parlé de la révision alors que je n'avais même pas encore sorti ces mots. Mais je dirais ceci, on raconte à la population, à juste titre, que la constitution est sacrée, sacrée entre guillemets. Mais ça signifie que toutes les dispositions de la constitution sont sacrées. Et là je donne un point de vue personnel, parce que je ne parle pas comme représentant de mon groupe parlementaire. Toutes les dispositions de la Constitution sont alors sacrées, notamment l'article 218 et l'article 219 aussi, en rapport avec la révision constitutionnelle. Et je termine en disant que l'article 218 parle de l'initiative de la révision constitutionnelle et l'article 219 essaie d'éclairer un peu comment on procède quand il s'agit d'une révision constitutionnelle. Mais sur le plan théorique, on peut penser à la révision d'une constitution pour corriger les lacunes, les imperfections.
Excusez-moi, on aura...
Par exemple,
vous êtes un peu allé très vite en besogne, hein, parce que la révision de la constitution, c'est l'objet de notre deuxième partie. Nous allons l'aborder, mais nous en sommes encore au bilan.
Oui.
Alors, y a-t-il eu manque manifeste de volonté politique, par exemple, pour la question de la retenue à la source des 40%?
Manque manifeste de volonté politique, je crois que non, dans la mesure où il y a eu plusieurs rencontres, plusieurs séances de travail, notamment au niveau de la conférence de gouverneurs de province, etc. Il y a eu plusieurs rencontres pour essayer de régler cette question, 40-60%. Il est vrai qu'aujourd'hui, nous n'avons pas encore atteint le point maximal tel que tracé par la Constitution, à savoir notamment la retenue à la source. Voilà pourquoi, en toute responsabilité, nous devons nous poser la question sur les causes de cette non-application et entrevoir les voies de sortie. Ce sera un débat utile pour le peuple congolais.
Honorable Moïse Nyarugabo.
Oui, monsieur le journaliste, vous voulez qu'on fasse le bilan. Je vous donne quelques exemples, sélectionnés comme ça. Il est dit dans notre constitution que l'éducation primaire est gratuite et obligatoire. Ça ne l'est pas aujourd'hui. Il est dit dans notre constitution que notre constitution consacre l'indépendance de la magistrature. On continue à nommer les magistrats pendant cette législature. On a nommé et révoqué les magistrats sur base du, disons, le ministre de la Justice entendu et non le conseil supérieur de la magistrature. Encore que même la dernière nomination porte d'autres irrégularités. Donc, là encore, on peut se demander si c'est consacré l'indépendance de la magistrature. On a consacré la décentralisation. en disant que pour ce qui concerne les recettes à caractère national, 40% devront être retenus à la source. Ça ne l'est pas. On a dit qu'en ayant 36 mois, ce n'est pas après 36 mois, c'est en ayant qu'il y aura les autres provinces, à part les 11 qui existent, seront installées. Donc les 15 nouvelles provinces vont être installées. Nous sommes à la fin de ces 36 mois. Peut-être qu'il nous reste 2, 3, 4 mois, je ne sais pas, 5 au plus, parce qu'on ne sait même pas exactement quand est-ce qu'on a le point de départ. Bon, c'est une autre matière. Mais c'est aucune de ces 15 provinces n'est installée. Il n'y a même pas un début de commencement. Donc, je peux donner d'autres cas sur d'autres matières. Voilà pourquoi moi je dis, en tout cas, je ne vois pas beaucoup d'efforts. Pourquoi les lois n'ont pas été votées? L'Assemblée nationale et le Sénat ont voté suffisamment de lois. Il faut le reconnaître. Mais ces lois n'ont jamais été présentées parce que c'est le gouvernement qui doit les présenter, parce que c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation, qui doit présenter ces projets de loi pour qu'ils soient votés. Ces projets de loi sur le découpage n'ont jamais été présentés. Donc, voilà le bilan que j'ai fait.
Professeur Paul Gaspard Ndondanko, l'Assemblée a voté des lois, mais non appliquées à ce niveau, hein, votre point de vue.
Oui, on se pose toujours la question du pourquoi les lois ne sont pas appliquées. Certaines le sont, d'autres pas encore. Mais c'est encore une fois une responsabilité du politique. Le juriste il ne peut constater que le fait. Il me semble que même au niveau du vote de loi, toutes les lois ne sont pas encore adoptées, ne serait-ce que dans le domaine du découpage territorial et du régionalisme constitutionnel. Il en reste encore beaucoup. Il faut une loi organique sur une loi financière, une nouvelle loi financière. Il faut une loi qui organise le statut des chefs coutumiers. Il faut une loi qui intervient en ce qui concerne les recettes à caractère local, etc. Donc, d'autres lois sont encore nécessaires, et y compris la loi sur la subdivision à l'intérieur des provinces. Elle est inscrite, me semble-t-il, à la session actuelle. Tout le monde espère qu'elle puisse être votée, ne serait-ce que pour organiser les élections locales. Donc, même au niveau des lois, il en reste encore beaucoup. La loi sur les trois ordres juridictionnels, que ce soit la Cour constitutionnelle, la Cour des cassations, le Conseil d'État et les juridictions, ces lois ne sont pas encore adoptées. Bon, la responsabilité est encore une fois du politique, mais techniquement, on peut expliquer aussi les choses en se disant que peut-être au Parlement, il y a beaucoup de projets de loi, beaucoup de propositions de loi qui arrivent, et en trois mois, souvent, les parlementaires ne parviennent pas à terminer les points inscrits à l'ordre du jour. Mais encore une fois, la question mérite d'être posée.
Dialogue entre Congolais de ce soir, près de 4 ans après la promulgation de la Constitution, certains points de cette loi fondamentale font l'objet de débats parmi les députés, notamment la question de découpage et décentralisation. Quel bilan dressé de l'application de la Constitution près de 4 ans après? Une révision de cette Constitution est-elle envisageable actuellement? Et quels sont les aspects qui peuvent être concernés? Nos invités dans ce débat sont Aubin Minakou, juriste, député national de la majorité présidentielle et vice-président du groupe parlementaire PPRD à l'Assemblée nationale, Moïse Nyarugabo. Il est juriste et sénateur RCD, Paul Gaspard Ngondankoy, professeur de droit constitutionnel à l'Université de Kinshasa. Nous allons prendre quelques réactions des auditeurs. Kakuli de Kalemi au Katanga, nul n'ignore que les découpages et la décentralisation sont constitutionnels. Pourquoi encore des débats à ce sujet? Pourquoi certains députés nationaux tentent de violer la loi fondamentale du pays? Augustin Mwango de Kalima au Maniema, j'apprécie notre constitution, mais je crois que son application est loin d'être effective. Je constate par contre qu'elle est maintes fois violée, même par ceux qui sont censés l'appliquer. Placide de Kinshasa, l'application de la Constitution en RDC est partielle, d'autant plus que le gouvernement central tire la couverture de son côté et ne veut laisser aux autres institutions de la République la liberté d'agir. Honorable Aubin Minakou, une réaction par rapport à ce qu'ont dit certains auditeurs que nous avons cités ici.
Bon, je suis tout à fait d'accord lorsque certains relèvent quelques points de la Constitution pour dire qu'il n'y a pas du tout application. Je suis tout à fait d'accord, mais l'essentiel, c'est de savoir pourquoi, par rapport à tel point, tel que l'éducation gratuite à l'école primaire. C'est vrai, c'est un dispositif constitutionnel qui requiert des moyens logistiques, des moyens financiers, qui requiert tout un système à mettre en place. Alors, il faut se poser la question,
face à cette disposition constitutionnelle. Est-ce que le gouvernement est de mauvaise foi ou a posé quelques pas pour arriver au respect de cette disposition constitutionnelle? Si on se rend compte que le gouvernement est buté à certaines contraintes majeures, à ce moment-là, ensemble, nous trouvons une solution dans le cadre des prérogatives des uns et des autres, parlements, gouvernements, présidents, etc. Concernant la décentralisation, les 36 mois, c'est pareil. On peut dire aujourd'hui, voilà, il nous faut 26 provinces. Un jour après, c'est décrété, nous avons 26 provinces au Congo. Est-ce nécessairement ce qu'on appelle décentralisation? Non. Il y a une gamme de mécanismes à mettre en place. Il y a plusieurs lois à prendre. Il y a plusieurs actes réglementaires à prendre. Pourquoi nous n'en sommes pas arrivés là? Est-ce qu'il y a mauvaise foi? Est-ce qu'il y a des contraintes majeures ou pas? C'est là le débat. Et donc, en résumé, je dis ceci. La Constitution, c'est la loi fondamentale, elle est capitale pour la République démocratique du Congo. Nous sommes encore dans un contexte difficile, particulier, et donc, de façon évidente, il y a des contraintes, des pesanteurs qui sont devant nous, à nous de savoir les porter pour arriver à trouver une solution dans l'intérêt de la République.
Honorable Moïse Narugabo, il y a Robert Kissou de Kisangani en province orientale. Il dit « Je regrette de ce que notre constitution n'est pas appliquée dans son ensemble. »
Ah ben il est encore généreux. Moi, je suis allé plus loin que ça. Donc, nous regrettons qu'il ne soit presque pas du tout appliqué. Je veux relever un élément sur lequel nous revenons, que beaucoup de lois n'ont pas été votées. Par exemple, les lois relatives au découpage, elles n'ont même pas été présentées. Et vous imaginez, si un sénateur ou un député rédige, il peut le faire. L'initiative est partagée. Mais en des matières comme celle-là, déjà aujourd'hui, le gouvernement n'applique pas la Constitution parce qu'on estime qu'il y a des choses qu'on a imposées. En des matières comme celle-là, c'est le gouvernement qui conduit la politique de la nation. Un député peut concevoir, un sénateur peut le faire. Il y a des matières où, normalement, il aurait fallu que ce soit le gouvernement qui propose le projet de loi. Ça n'a pas été fait. Et moi, je dis, ce n'est pas la première fois. Il n'y a pas longtemps, nous avons voté en toute urgence la loi portant des limitations de l'espace maritime qui était attendue depuis 10 ans. Le délai a expiré. On nous a donné un moratoire de 10 ans. Et avant la fin de 10 années encore, on nous a présenté le projet de loi au dernier mois de 10 ans. Et on a voté cette loi, le collègue se rappelle, en toute urgence.
Pour ne pas dire dans la précipitation.
Dans la précipitation, bien sûr. On n'a même pas eu le temps de faire des recherches, alors que c'était une loi très technique. Mais c'est pour dire qu'on va... C'est la même chose. Alors, qu'est-ce qui empêche? Nous avons beaucoup de spécialistes. Le gouvernement aurait pu prendre l'initiative de réunir tous ces spécialistes. Nous avons un professeur en droit ici, il y en a beaucoup d'autres qui concevraient ces projets et le gouvernement déciderait en conseil des ministres, examinerait selon la politique et soumettrait au Parlement. Donc, c'est ce que je dis. Soit on ne prend pas ça comme urgence, soit je ne sais pas ce qu'on attend. On attend peut-être justement de la réviser avant de l'avoir appliquée.
Professeur Paul Gaspard Ngondanko est trésor d'outil Kalonji de Lubumbashi au Katanga. Il dit, d'une manière générale, le bilan de l'application est positif, notamment avec l'installation effective de la majorité des institutions nationales. Mais il faut citer la question de la retenue à la source par les provinces et 40% des recettes qui n'est toujours pas respectée.
Oui, mais je crois que la question revient à tout ça. Hein. Nous l'avons dit dès le départ.
Donc ça préoccupe les auditeurs. Hein.
Bien sûr, la Constitution, elle est appliquée en partie, elle ne l'est pas. Hein. Si vous voulez, la liste des articles ne sont pas appliqués. L'article 10 de la Constitution sur la nationalité, qui jusqu'à maintenant proclame le caractère uni et exclusif de la nationalité congolaise, vous vous rappelez qu'au Parlement, on avait pris un mois de six mois,
jusqu'aujourd'hui, on a rien.
Oui, donc il y a des dispositions qui ne sont pas appliquées,
pour des raisons qui peuvent être de nature politique ou technique, moi je n'en sais rien, mais nous constatons qu'il y a certaines dispositions qui ne sont pas appliquées. Mais par contre, il faut avoir l'honnêteté intellectuelle pour dire qu'il y a d'autres qui le sont. C'est comme dans toute société. Mais moi je pense que la question, parce que vous nous l'avez annoncé dans la deuxième partie, cette question sur la possibilité de la révision de la Constitution. Moi je pense que s'il y a ce débat-là, la Constitution peut être révisée du point de vue d'un professeur de droit que nous sommes, ne serait-ce que d'abord sur le plan de la forme. C'est une Constitution qui présente beaucoup de problèmes du point de vue de la forme, et je crois qu'au moment du débat sur son adoption, il y a eu un professeur de l'université qui avait publié un ouvrage à ce sujet.
Alors,
serait-ce pour ça?
Oui,
je vous en prie, terminez votre débat. Okay. Ne serait-ce que pour ça, il y a moyen. Mais il y a d'autres problèmes de fond qui s'opposent également, notamment le problème de la nature du régime politique. Ce sont des mécanismes qui sont mis en place. Vous vous rendez compte, nous sommes dans le cas d'un régime parlementaire, dit-on, où le gouvernement est responsable devant l'Assemblée nationale, qui conduit la politique de la nation, définie préalablement en concertation avec le président de la République. Mais en même temps, vous avez la Constitution qui dit qu'il n'a pas le droit de présider le Conseil des ministres. C'est le président de la République qui préside, qui convoque et qui préside, et donc c'est lui qui fixe l'ordre du jour. Bon, un premier ministre qui a une politique dont il est responsable devant le Parlement, qui ne peut le faire, qui ne peut présider le Conseil des ministres, qui n'est pas délégation du président de la République, s'il est empêché, pose problème si jamais les deux ne sont pas de la même famille politique.
Alors, parce qu'on y est déjà dans la révision probable, hein, envisageable de la Constitution.
Je n'ai pas dit qu'elle doit avoir lieu, mais...
Je vous en prie, professeur, vous ne l'avez pas dit, mais nous sommes déjà en plein dans la deuxième partie.
Oui.
Vous avez dit qu'elle ne devrait l'être que si elle est envisageable sur le plan de la forme. Concrètement, ça veut dire quoi?
Ben, concrètement, ça veut dire, par exemple, il y a des règles de rédaction d'une constitution. Il y a une science de logistique. Lorsque vous utilisez un concept dans une loi, il faut l'utiliser du début à la fin. Il y a dans la constitution un certain nombre de concepts qui sont utilisés qui posent problème d'interprétation. Par exemple, on utilise le concept des fonctions publiques, nationales ou locales. En même temps, vous trouvez dans d'autres dispositions de la constitution, on parle de services publics. Bon, fonctions publiques et services publics, ça veut dire la même chose. Il y a des concepts qui sont utilisés là énormément, qui posent problème du point de vue de l'interprétation. Mais même sur le plan bon placement des dispositions constitutionnelles, vous trouvez des dispositions constitutionnelles qui se trouvent dans telle section, mais qui mériteraient d'être plutôt dans telle autre. Et là, ça pose un problème d'interprétation. Vous avez des dispositions constitutionnelles qui se répètent. Il y a beaucoup de dispositions de la Constitution qui se répètent.
Citez-vous une ou deux.
Par exemple, quand vous regardez le mode de décision des assemblées parlementaires, on y revient à plusieurs reprises. Majorité absolue, ceci ou cela. Mais vous voyez deux ou trois ou quatre dispositions qui parlent de la même chose, et on se demanderait si on ne peut pas les regrouper ensemble comme ça. On fait l'économie. Du temps, des moyens, etc. Donc, ne serait-ce que pour des raisons formelles, cette constitution, au cas où le politique lève l'option, pourrait effectivement être retravaillée sur ce plan-là.
Alors, avant de donner la parole à nos deux honorables députés, nous allons avoir l'avis d'un autre constitutionnaliste, c'est le professeur Vundaoui Tetemakon. Pour lui, une révision de la constitution s'avère nécessaire, surtout pour ce qui est de la décentralisation. Pour lui, la disposition sur le délai de 36 mois pour avoir les 26 provinces de la RDC n'est pas réaliste. En plus de cette disposition de la Constitution, Vundaoui Tetemakon pense qu'il y a encore plusieurs dispositions à revoir, mais qui devront être débattues à l'Assemblée nationale. On l'écoute, il est au micro, au téléphone de Kenkouté.
Il faut dire la vérité, madame, c'est que ceux qui ont rédigé cette constitution en ce qui concerne la décentralisation, ils n'ont pas eu le temps d'approfondir cette question. Prenons par exemple, ils ont dit que on doit mettre cette constitution en application dans un délai qu'on a dit de 36 mois. Ils n'ont pas vu la situation sur le plan matériel, sur le plan juridique, sur le plan financier. Et après, depuis lors, rien n'a été fait. Et d'ici l'année prochaine, le délai va expirer. Donc, au niveau de pouvoir pouvoir central, on constate que c'est une question de volonté politique. Bon. Mais en réalité, on ne saura pas respecter ce délai, c'est clair. Alors la seule façon, il faudrait réviser certaines dispositions, notamment la disposition concernant le délai de transhumance. Donc c'est impossible d'appliquer ce délai-là. Faut-il toucher d'autres dispositions constitutionnelles? Ben, ça, c'est au niveau de la plénière, au niveau de l'Assemblée nationale en particulier. Cette question sera abordée.
Honorable Urbain Minakou, à part la décentralisation citée par le prof Vundawe, dont vous avez aussi parlé ici, le professeur Paul Gaspard Ngondankoy évoque la forme, le régime politique.
Bon, je suis tout à fait d'accord en ce qui concerne la forme, parce qu'il y a de nombreuses lacunes quant à ce. Mais j'aimerais aussi ajouter le débat en rapport avec la définition du pouvoir judiciaire et de l'indépendance du pouvoir judiciaire, et non l'indépendance de la magistrature, qui est un peu un concept générique. Parce que le pouvoir judiciaire, c'est le pouvoir juridictionnel. Et c'est ce pouvoir-là qui bénéficie de l'indépendance partout au monde. Alors, je crois qu'il faudrait qu'il y ait un débat en rapport avec le rôle du ministre de la Justice, la place du président de la République au sein du Conseil supérieur de la magistrature. Parce que l'expérience actuelle nous a démontré qu'il y a quelques problèmes. Et les magistrats eux-mêmes le disent. Et je conclue en disant que une révision constitutionnelle, ce n'est pas un tabou.
Donc vous pensez, excusez-moi de vous arrêter, que le président de la République doit faire partie du Conseil supérieur de la magistrature.
Je dis ceci, il faut qu'il y ait un débat, parce que nous avons constaté que le dysfonctionnement au sein de la magistrature, du pouvoir judiciaire, peut avoir comme cause notamment la composition du Conseil supérieur de la magistrature. Donc il faut que nous puissions ouvrir ce débat et qui pourrait nous amener éventuellement, je dis bien éventuellement, à une révision constitutionnelle des dispositions portant sur cette question.
Est-ce que par exemple cette révision pourrait aller jusqu'au mandat du président de la République par exemple?
Jusqu'au mandat du président de la République.
Oui.
Bon, s'il faut une révision devant aller jusqu'au mandat du président de la République, là c'est vraiment une révision de fond. Ça pourrait constituer même un tournant. Et je ne vois pas les institutions actuelles penser à nécessairement chercher à changer le mandat du chef de l'État. La révision, c'est pour corriger les lacunes et les imperfections techniques afin d'améliorer la gouvernance au sein de l'État congolais.
Honorable Moïse Nyarugabo, il y a une information de Radio France Internationale, RFI, qui est revenue pratiquement sur le même problème, qui dit par exemple qu'il y a déjà une commission d'évaluation de la Constitution qui est en cours pour réviser la Constitution.
C'est un secret des polichinelles, rien qu'en parlant avec nos collègues de la majorité, on le sent. C'est pourquoi j'avais dit avant que j'aurais voulu que vous laissiez Urbain Minakou chuter qu'il le dise. Il a dit que je l'ai dit sans qu'il l'ait dit, mais c'était pas difficile de l'entendre. Bon, la révision fonctionnelle n'est pas interdite. Elle est prévue dans la Constitution. C'est l'article 218. Mais c'est pourquoi on fait cette révision et c'est comment on fait cette révision. C'est ça le problème. Donc la révision comme principe, elle est prévue. Mais l'information qui circule, considérons que c'est de la rumeur, mais si elle s'avérait vraie, elle va concerner exactement les domaines qui ne sont pas révisables.
Là, vous parlez de quelle information? Celle des RFI?
Non, ce que vous venez de dire, vous, et que lui a confirmé.
Sur le mandat du chef de l'État.
Le mandat du chef de l'État.
Est-ce que j'ai confirmé, s'il vous plaît, parce que...
Non.
Il y a eu plusieurs déclarations par
le
chef de l'État.
Je
vais confirmer.
Non, c'est que...
Je vous en prie, honorable Minakou, il nous reste deux minutes pour terminer.
Votre avis, monsieur, vous avez dit qu'il aurait fallu qu'on voie la place du chef de l'État et du ministre de la Justice par rapport au Conseil de la magistrature.
C'est aussi une information RFI.
Mais il vient, lui-même, sa réflexion, je ne me réfère pas à RFI, je me réfère à la réflexion du député de la majorité. Alors, si on revient à ça, donc vous voyez que ce n'est pas parce qu'il y a un problème de 36 mois, encore que le professeur Vundawe a dit qu'il est impossible de respecter les 36 mois parce que rien n'a été fait jusque-là. Il a même utilisé le mot « manque de volonté politique ». Donc, si rien n'a été fait, même si on fait la révision, on va réviser 1 million de fois s'il n'y a pas de volonté politique, même la constitution révisée ne sera pas appliquée à 100%.
parce que aujourd'hui, si on doit chercher à intégrer le chef de l'État et le ministre de la Justice dans le Conseil supérieur de la magistrature, en quoi ce conseil sera encore indépendant si le président de la République est membre? Comment il peut être membre sans le présider?
Professeur Paul Gaspard Ngondankoy, par exemple, le mandat du chef de l'État, sa présence dans le Conseil supérieur de la magistrature.
Ça, c'est un débat de politique. Hein. Les questions qui peuvent faire l'objet de révision constitutionnelle relèvent de la décision de l'autorité politique. Le principe de la révision constitutionnelle est inscrit dans la Constitution elle-même, mais je rappelle qu'il y a certaines dispositions de la Constitution qui sont irrévisables. Et c'est l'article 220 qui énumère un certain nombre de matières. La forme républicaine de l'État, l'indépendance du pouvoir judiciaire, la question du nombre et de la durée du mandat présidentiel, le régime des libertés, ces matières ne sont pas révisables. En tout cas, pas par le pouvoir constituant dérivé que constitue le Parlement. S'il faut le faire, il faut aller au référendum. Et quand on touche à ça, on n'est plus dans l'hypothèse de la révision constitutionnelle, mais de celle du changement de l'ensemble de la Constitution, parce qu'on en a modifié le principe fondamental.
Honorable Ninakou, pour terminer, vous confirmez déjà que cette commission est mise en place?
Bon, je n'en sais rien. Il semble qu'il y a une commission composée de sénateurs, députés, membres de la primature, etc. Je n'en sais rien du tout.
Merci à vous, nos chers invités. C'est la fin de cette émission. Bonne suite au programme sur Radio Capi.